franceinter.fr.
Bonjour Christophe Castaner.
Bonjour.
Ça y est, la crise politique est passée ?
Quelle crise politique ? Le remaniement a eu lieu. D'abord, dimanche, une élection, une majorité forte pour le président de la République et le Premier ministre. Commençons par l'essentiel.
Il n'y a pas de crise. Vous ne pouvez pas convenir de l'ampleur du désordre. Quatre ministres qui sortent, et non des moindres, après 30 jours de gouvernement, c'est pas de l'énergie et du temps perdu.
C'est une fragilité qui a été traitée. Donc on peut l'appeler crise si on veut partir haut dans le vocabulaire, fragilité à un moment donné. Aujourd'hui, il y a un gouvernement en responsabilité, resserré, rajeuni, féminisé. Il y a une majorité parlementaire et ça c'est quand même l'essentiel. Ça n'était pas acquis il y a deux mois, on pensait que c'était même quasiment impossible. Aujourd'hui, les choses sont claires, je vous dirais maintenant au boulot.
Est-ce qu'on peut, avant d'aller au boulot, est-ce qu'on peut aller plus loin dans le débat sur la justice, la morale et la transparence ? Qu'est-ce qui fait sortir ces ministres ? Est-ce que c'est l'avancée de la justice ? Est-ce que ce sont les enquêtes ou les révélations de la presse ? Est-ce que c'est la pression de l'opinion publique ?
Je ne crois pas que ce soit les avancées de la justice, parce qu'il n'y a pas d'élément particulier à ma connaissance qui implique cela. Alors, on est dans une situation difficile, parce que la pression médiatique qui est posée sur un ministre peut l'empêcher. Est-ce que c'est juste ? Non. Mais en même temps, c'est la responsabilité de chacun de faire les enquêtes quand elles sont nécessaires, de mettre en avant un certain nombre de sujets et quelquefois de provoquer des enquêtes judiciaires. C'est aussi le résultat de ce qui a pu se passer ces derniers temps par le travail de la presse.
Donc c'est pas juste, mais il faut le faire.
Mais vous savez, déjà le principe même posé par le Premier ministre de dire... Un ministre mis en examen doit quitter le gouvernement et par nature injuste, parce qu'on sait très bien que la mise en examen ne vaut pas condamnation. Et pourtant, on sait que dans notre société médiatique, de tension, d'attente forte de nos concitoyens, vous êtes en fragilité quand vous êtes mis en examen. Et aujourd'hui, on constate un ministre, garde des Sceaux, par exemple, est en fragilité quand il fait lui-même l'objet d'une enquête. Donc à partir de là, je pense qu'ils ont pris les uns et les autres la bonne décision, celle de se mettre en retrait, non pas de partir de la politique, mais de se mettre en retrait pour préparer leur défense. Et ils ont leur place dans la vie politique française, parce que je suis convaincu que les uns et les autres ne seront pas condamnés pour des faits, pour l'instant, sur lesquels ils ne sont pas mis en examen et dans la plupart des cas, même pas mis en cause.
La ligne du gouvernement a donc évolué, ce qu'a convenu, ce qu'a semblé dire Édouard Philippe, le Premier ministre, hier soir.
La ligne du gouvernement reste la même. Un ministre mis en examen doit partir. Par contre, il y a des décisions personnelles fortes qui ont été prises, d'abord par
Sylvie Goulard. Et un ministre soupçonné.
Mais il n'y a pas de demande, il n'y a pas eu de demande pour aucun de ces ministres de quitter le gouvernement, ni par le président de la République, ni par le Premier ministre. Mais il y a une situation qui les a amenés à penser qu'il y avait un empêchement de bien faire leur travail de ministre. Et j'ai apprécié, moi, les propos de François Bayrou hier, y compris pour préserver la loi de confiance qu'il a portée et que nous allons poursuivre parce que nous le lui devons. Je pense que ça va dans le bon sens.
Enfin, François Bayrou a aussi dénoncé la délation, les sycophantes, en référence à la Grèce antique. Et Finkielkraut, tout à l'heure, qui était l'invité de Léa Salamé à 8h10, parlait d'une prime à la délation et à l'accusation. Vous êtes sensible à ce débat, Christophe Castaner ?
Oui, moi j'ai eu l'occasion d'échanger avec les journalistes. On a une difficulté. Qui est aujourd'hui le juge de la morale et de l'éthique ? Et où sont les curseurs, où sont les référentiels ? Moi, je préfère toujours la justice parce qu'elle a un cadre. Elle a un cadre, elle a un arbitre, c'est le magistrat qui va décider ou qui va sanctionner. Mais aujourd'hui, dans notre société d'hypercommunication, on sait bien que dans nos fonctions politiques, on peut être en fragilité même de façon injuste. Mais vous savez, l'élection elle-même est injuste. Moi, je connais un grand nombre de parlementaires qui ont été battus venant du Parti Socialiste ou des Républicains il y a une quinzaine de jours, pour lesquels ça a été injuste, eu égard à leur travail, à 5 années consacrées à leur territoire ou au travail dans l'hémicycle. Mais c'est le propre de la politique aussi. Nous devons nous adapter à ce temps médiatique, à cette exigence d'éthique qui est plus forte pour nous que pour d'autres citoyens, dont acte. C'est peut-être aussi les conséquences de certaines turpitudes de certains d'entre nous.
Et on va regarder le reste de la liste à présent, forcément. Donc on va se demander jusqu'où ça va s'arrêter. Muriel Pénicaud, par exemple, peut-être soupçonnée comme ancienne dirigeante de Business France, vous savez, sur l'histoire du forum à Las Vegas.
Oui, sauf que dans le cas particulier, on ne va pas rentrer dans le détail, il y a un marché qui est passé avec une entreprise pour assurer la représentation de la France à Las Vegas dans un colloque international que tout le monde connaît. Elle constate une anomalie, elle saisit un cabinet d'audit pour faire un travail, elle saisit ensuite l'inspection générale du ministère, l'inspection générale valide une décision. Moi, je ne suis pas inquiet sur les suites de cette discussion qui n'est pas une affaire.
On y reviendra sans doute avec les auditeurs de France Inter tout à l'heure, 01 45 24 7000. Quelques mots sur la composition du gouvernement, Christophe Castaner, gouvernement dont on soupèse les équilibres politiques, c'est la règle, vous n'avez pas oublié, j'imagine que vous êtes issu du Parti Socialiste.
Ah, je n'ai pas oublié, je sais d'où je viens.
Et donc vous avez remarqué que les quatre ministres régaliens, Collomb, Le Drian, Belloubet, Parly, ces quatre-là sont issus du Parti Socialiste.
Ça n'est pas grave d'être issu du Parti Socialiste.
Non, mais je vous demande si c'est un signal.
Par contre, je pense par exemple
que
Florence Parly, aujourd'hui, ne peut pas être considérée comme une militante du Parti Socialiste. Elle a été au cabinet de Lionel Jospin, puis ministre de Lionel Jospin. Mmh. Depuis, elle a fait ses preuves dans de grandes entreprises. Et donc, du coup, on n'est pas aujourd'hui dans cette histoire. Mais vous savez...
C'est grave ou c'est pas grave alors, hein?
Non, mais pour répondre à votre question, il faudrait que j'arrive à savoir à quel moment on est marqué de l'empreinte formelle. Prenez l'exemple du Premier ministre. Ouais. Moi, j'ai eu en tête qu'il avait été rocard comme moi, qu'il était aux Républicains il y a quelques semaines, et aujourd'hui il est Premier ministre d'un gouvernement qui veut dépasser les partis politiques. Donc moi je me fiche un peu de savoir quel est le parcours des gens, mais seulement si j'arrive à travailler avec lui, pour le Premier ministre, ou avec eux au sein du gouvernement. C'est quand même ça l'essentiel.
Donc les équilibres politiques n'ont pas bougé entre les deux gouvernements, Philippe ?
Non, parce que vous avez aussi un président de conseil départemental, les Républicains qui rentrent dans le gouvernement, et vous avez des personnalités. Je crois que par exemple pour la garde des Sceaux, on a plus regardé le fait qu'elle était professeure de droit, qu'elle était membre du conseil constitutionnel, ce que je trouve plutôt pas mal pour être garde des Sceaux, par rapport à son expérience, que de savoir si un jour elle a eu sa carte ou pas dans un parti politique.
Elle a eu sa carte au PS et elle a... elle s'est exprimée au moment de l'élection du premier secrétaire du PS. J'ai retrouvé ses archives et elle a été pendant 5 ans élue locale à la mairie de Toulouse et au conseil régional Midi-Pyrénées.
Mais je veux pas vous laisser l'impression que je veux cacher ça. Moi, j'assume d'avoir été un militant socialiste, mais de l'avoir quitté le Parti Socialiste, de m'en être libéré, mais comme un acte politique. Mmh. Pour la garde des Sceaux, ça n'est pas le cas. Oui. C'est son évolution personnelle qui l'a amené à s'éloigner du Parti Socialiste.
Non, mais on sent bien votre envie de brouiller les clivages.
C'est de les dépasser, alors totalement.
De les dépasser, voilà.
Parce que j'ai été prisonnier de ce système pendant trop longtemps. J'ai assumé mes responsabilités. J'étais tête de liste aux élections régionales pour le Parti Socialiste il y a un peu plus d'un an. Et je ne veux pas laisser penser que je l'oublie. Je sais d'où je viens. Je sais mes valeurs. Et je ne dis pas que la droite et la gauche, c'est pareil et qu'il n'y a plus de valeurs. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête de se poser la question de savoir si celui qui parle est de droite ou de gauche pour savoir si son idée est bonne, mais plutôt de savoir si son idée est intéressante ou pas pour la France.
Le journal Le Monde a publié les 9 articles du projet de loi d'habilitation sur la réforme du travail, la version qui, selon le journal, a été transmise au Conseil d'État. C'est bien le projet du gouvernement ?
Alors, je ne veux pas me prononcer sur ce document, mais on retrouve effectivement le cadre dans lequel la ministre du Travail veut discuter avec les partenaires sociaux. C'est un cadre avec l'ensemble des sujets qui sont posés sur la table. Ça n'est pas la loi qui aboutira ou les ordonnances et la traduction réglementaire.
Non, pas les ordonnances, mais la loi d'habilitation qui sera discutée au Parlement.
Et qui pose un cadre. C'est le principe même de l'ordonnance. Vous mettez le curseur bas, le curseur haut et vous discutez au milieu. Il y a 48 réunions prévues avec les partenaires sociaux, mais c'est effectivement le cadre sur lequel les discussions vont avoir lieu avec les partenaires sociaux.
Et une idée, alors il y a des choses qu'on retrouve qui ont été évoquées dans le débat pendant la campagne présidentielle et après, une idée qui ressurgit, c'est le recours au CDI de projet, c'est-à-dire l'idée d'embaucher pour une durée indéterminée des ouvriers sur un chantier pendant plusieurs années pour clôturer le contrat de travail à la fin de la construction ou du chantier. C'est une idée qui vous semble intéressante, innovante ?
Alors d'abord, je vais replacer le cadre. C'est effectivement un sujet qui va être discuté entre la ministre du Travail et les partenaires sociaux. Ensuite, vous savez, je crois qu'on fait à peu près tout ça. Quand on veut construire sa propre maison, on fait appel à une entreprise et on passe un contrat sur la durée de l'objectif, c'est-à-dire la construction de la maison. Donc peut-être qu'on peut aussi raisonner comme ça et qu'une entreprise peut prendre le risque d'embaucher à un moment donné parce qu'elle sait qu'elle a une capacité de marché qui va lui permettre d'embaucher. Et moi, je préfère qu'elle prenne ce risque-là plutôt que de ne pas embaucher.
Donc le CDI de projet pourrait se retrouver dans la loi d'habilitation.
Il sera discuté, et s'il y a un accord et s'il y a une décision politique ensuite, il pourrait s'y retrouver, mais c'est une base de discussion avec les partenaires sociaux.
Mais non, parce que les discussions avec les partenaires sociaux, elles iront au-delà du débat au Parlement.
Non, dans la loi.
Dans le calendrier.
Le principe de la loi pour préparer une ordonnance donne un cadre. Fourchette basse, fourchette haute. Ouais. Vous discutez pendant ce temps-là et ensuite le gouvernement le traduit par un texte qui est aussi validé par l'Assemblée nationale et le Sénat.
Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement avec nous jusqu'à 9h et vos appels dans quelques minutes au 01 45 24 7000.